RFI, il est 14h10 à Paris, 8h10 à Port-au-Prince, l'heure de retrouver Céline Pellarin pour le journal d'Haïti et des Amériques.
Bonjour Pauline Glaise, bonjour à toutes et à tous. En Haïti, c'était hier la rentrée parlementaire. Les élus ont tenu leur première session au Parlement alors que le contexte social est tendu. C'est Godson Pierre d'Altar Press qui nous le racontera. Puis ce sera au tour d'Arim Lipol de nous faire un tour de la presse du continent. Bonjour Arim.
Bonjour Céline, bonjour à tous.
Il sera question de la fin du visa de protection américain pour les Salvadoriens. Le TPS, c'est donc fini pour ces ressortissants du Salvador aux États-Unis qui en bénéficiaient depuis 2001. Nous verrons aussi qu'au Venezuela, on ne sait toujours pas quand sera organisée la présidentielle, mais il y a déjà un candidat déclaré, et ce n'est pas le président Maduro. Enfin, des journalistes équatoriennes prennent à bras-le-corps le problème de leur trop grande absence dans les médias du pays. Elles créent la version équatorienne des femmes puissantes, las Chicas Poderosas, une association qui existe dans le monde entier.
Port-au-Prince, 89.3 FM.
On ouvre cette édition par l'actualité haïtienne. On vous retrouve, Godson Pierre d'Alter Press, bonjour.
Bonjour Céline.
Est-ce que vous relevez, ce sont les intempéries qui frappent Haïti en ce début d'année?
En effet, un début d'année mouillé, ce n'est pas courant en Haïti où on a rarement vu le soleil depuis plus d'une semaine. Plusieurs régions sont touchées par de persistantes intempéries, causant même des inondations qui ont fait au moins un mort et 8 blessés selon la protection civile. Les victimes ont été dénombrées dans le nord-ouest où les inondations sont les plus sévères. Le nord, le sud et le sud-ouest sont également très affectés et les rivières traversant de nombreuses régions sont en crue. Hier encore, des quartiers étaient inondés au Caille. Dans le sud, dans les départements du nord-est, du nord-ouest et de l'ouest, les routes sont difficiles d'accès. D'aucuns se questionnent à propos de l'efficacité des travaux d'infrastructure entrepris par le gouvernement ces derniers mois, notamment le curage de canaux qui devrait aider à minimiser les inondations. La protection civile exhorte à la vigilance face à la persistance des pluies au cours de cette semaine, particulièrement sur le département du Nord.
Une rentrée politique et législative pour une année 2018 qui s'ouvre dans un contexte social difficile.
La cérémonie d'ouverture de la session ordinaire de l'année législative 2018 a eu lieu hier avec la participation d'une vingtaine de sénateurs et d'une soixantaine de députés. C'était l'occasion pour le président Jovenel Moïse de faire un exposé de la situation générale de la nation. Il évoque une année 2017 marquée par de nombreuses difficultés, notamment les impacts du passage de l'ouragan Matthew qui reste encore palpable. Il affirme vouloir poursuivre des réformes structurelles nécessaires. Il se dit attaché au respect des normes démocratiques et invite l'opposition à manifester son désaccord dans un climat constructif et serein. La dépréciation de la gourde, la montée des prix des produits pétroliers et le vote de la loi contestée des finances 2017-2018 ont entraîné une dégradation des conditions socio-économiques de la population. Face à cette situation, des manifestations se sont multipliées au cours de l'année 2017 à travers plusieurs villes du pays, notamment à Port-au-Prince, pour exiger le départ du pouvoir en place. Un nouvel appel à manifester est lancé pour aujourd'hui par l'ancien candidat à la présidence, Jean-Charles Moïse.
Enfin, Godson Pierre, Haïti enterre aujourd'hui une éminente intellectuelle et une figure emblématique de la religion vaudou.
Les funérailles de l'anthropologue, professeur d'université et prêtre vaudou Rachel Beauvoir, décédée vendredi dernier, ont lieu en effet aujourd'hui. Elle se déroule dans un temple vaudou à Mariani, au sud de la capitale. Rachel Beauvoir a contribué énormément au développement des études sur la culture haïtienne et sur le vaudou, selon le rectorat de l'Université d'État d'Haïti. Elle est co-auteur avec son mari, l'architecte Didier Dominique, de l'ouvrage « Savaloué », un livre traitant du vaudou haïtien et qui a reçu le prix Casa de las Américas de la Havane à Cuba en 1989. Rachel Beauvoir était engagée politiquement et a combattu la dictature. Elle venait tout juste d'être accueillie en tant que membre de l'Académie créole haïtienne.
C'était la revue de presse, la chronique de Godson Pierre, rédacteur en chef d'Alter Press, à mardi prochain. La revue de presse des Amériques, c'est donc avec vous, Harim Lipol. Et on prend la direction des États-Unis avec une décision qui sème la panique au sein de la communauté salvadorienne dans le pays.
Oui, plus de 200 000 ressortissants de ce pays d'Amérique centrale vont perdre leur statut protégé, le TPS, le statut de protection temporaire. Leur a permis jusqu'ici de travailler légalement sans titre de séjour. Il avait été mis en place en mars 2001 pour accueillir des réfugiés arrivés en grand nombre après deux tremblements de terre dévastateurs. L'annonce de la fin de ce statut a été accueillie avec stupeur par les personnes concernées.
Mais certains responsables politiques critiquent également cette décision de l'administration Trump.
Elle est cruelle, a déclaré l'élue républicaine de Floride, Eliana Ross Lehtinen, dans les colonnes du Miami Herald. Donald Trump est en train de déchirer ses familles qui travaillent aux États-Unis. Il met leur vie en danger, menace notre économie et tourne le dos aux valeurs américaines. Des propos signés Tom Perez, le président du Parti démocrate. Toute une génération de Salvadoriens est contrainte de quitter les États-Unis, écrit le Los Angeles Times. Le journal a rencontré José Guevara, 23 ans, atteint de leucémie. Comment je vais faire maintenant, se demande-t-il. Jusqu'à présent, ce sont mes parents qui se sont occupés de moi, mais là, ils vont devoir partir au Salvador.
Et parce que José Guevara, lui, n'est pas concerné par la décision.
Non, parce qu'il est né aux États-Unis, comme des centaines de milliers d'autres enfants de parents salvadoriens, désormais confrontés à des choix très, très douloureux. Même l'ambassadrice américaine au Salvador, Jean Elizabeth Manus, le reconnaît.
C'est un sujet très difficile. On parle de presque 192 000 enfants, de ces personnes qui ont le statut de protection temporaire. Et ces enfants ont la nationalité américaine. C'est un sujet très difficile et très délicat. On continuera à y travailler. C'est un choix très difficile pour chaque famille concernée et nous le comprenons très bien.
Évidemment, Harry, mais bien c'est à la une de la presse salvadorienne.
Oui, le TPS se termine dans 18 mois, titre par exemple El Diario de Hoy, et selon la Prensa Gráfica, le Salvador doit s'engager à recevoir tous ceux qui ont perdu le statut. Ils représentent un capital humain énorme, mais il faut bien se préparer à leur arrivée, estime le journal.
Et on part au Venezuela où l'on connaît désormais le nom du premier candidat déclaré pour l'élection présidentielle.
Oui, c'est à la une d'El Nacional. Il s'agit de Claudio Fermín, sociologue ancien maire de Libertador, une commune de Caracas. Il a annoncé sa candidature hier via Twitter. Fermín n'est pas à son premier essai. Il avait déjà brigué un mandat présidentiel en 1998. C'était à l'époque sous la bannière du parti Action démocratique, parti d'opposition. Mais cette fois-ci, Céline, eh bien, il se présente en tant que candidat indépendant, tout en soulignant que l'opposition doit se mettre d'accord sur un candidat unique.
La direction du Brésil où une nouvelle ministre désignée a des soucis avec la justice.
Un tribunal a empêché Cristiane Brasil de prendre officiellement ses fonctions et pour cause. La nouvelle ministre du Travail a été condamnée il y a quelques mois par la justice, députée du Parti des Travailleurs Brésiliens. Eh bien, elle a fait travailler ses chauffeurs, ses deux chauffeurs, 19 heures par jour, du lundi à vendredi, ce qui est interdit au Brésil.
Okay, beaucoup, beaucoup. Pour terminer votre revue de presse, retour aux États-Unis. Hier soir, le président Trump a reçu un accueil mitigé dans un stade de football.
Oui, le président, Céline, vous pouvez l'entendre, a été hué par une partie des spectateurs venus assister à la finale du championnat de football universitaire. Un joueur de l'équipe de l'Alabama, qui a d'ailleurs remporté le match, enfin pas le joueur, mais l'équipe de l'Alabama, a aussi insulté Donald Trump dans le couloir qui mène à la pelouse, rapporte le site Sporting News. Vidéo à l'appui, interrogé sur ses propos, le joueur a expliqué qu'ils étaient, que ces propos très très insultants, hein, des mots qui commencent par un F et qui se terminent par un K, bien que ces propos étaient en fait destinés à l'équipe adverse de Géorgie.
Évidemment. Merci Harim Lipol pour cette revue de presse où l'on vient donc de voir que le président américain n'est pas au top de sa popularité auprès du monde du football américain. Pareil à Hollywood. D'ailleurs, est-ce l'une des stars les plus puissantes qui pourrait lui succéder? Est-ce que l'on pourra bientôt lire sur des pancartes Oprah for President? En tout cas, des proches de la papesse de la télévision américaine affirme à la chaîne CNN qu'elle pourrait être candidate en 2020. Dimanche soir, cette hypothèse s'est renforcée. Oprah Winfrey recevait une récompense aux Golden Globe Awards. Et le moins que l'on puisse dire, eh bien, c'est que son discours a enflammé les réseaux sociaux. Correspondance à Washington, Dan Corpé.
C'est la reine des médias aux États-Unis et l'une des premières afro-américaines milliardaires. Elle a fait campagne auprès de Barack Obama et soutenu Hillary Clinton. Son discours combatif et plein d'espoir aux Golden Globes a relancé l'hypothèse de sa candidature à la Maison Blanche. La star évoquait la campagne MeToo contre le harcèlement sexuel, mais beaucoup ont cru percevoir un horizon plus large. Oprah Winfrey.
En ce moment, il y a des petites filles qui me regardent devenir la première femme noire, recevoir cette récompense. Et je veux que toutes les filles qui regardent sachent qu'un jour nouveau est à l'horizon. Et quand ce jour nouveau se lèvera finalement, ce sera grâce à beaucoup de femmes magnifiques et d'hommes phénoménaux qui nous conduisent vers le moment où plus personne n'aura besoin de dire « moi aussi ».
Ce n'est pas la première fois que la rumeur lui donne des ambitions politiques, mais cette fois la star n'a pas démenti. « C'est le peuple qui décidera », a simplement commenté son compagnon de longue date. Il n'en fallait pas plus pour enflammer les réseaux sociaux. Les hashtags « Oprah 2020 » et « Oprah présidente » inonde le fil Twitter américain. Anne Corpet, Washington, RFI.
Et on verra si cette candidature d'Oprah Winfrey se concrétise dans les prochains mois. Il est 5h passées de 20 minutes à Los Angeles. Je vais vous parler à présent de mes collègues en Équateur, de mes collègues journalistes femmes qui ne sont pourtant pas très nombreuses. Et justement, pour pallier à ce manque de visibilité, trois d'entre elles prennent les choses en main. Trois journalistes équatoriennes ont rallié une initiative internationale intitulée Las Chicas Poderosas, les filles puissantes. Le reportage de notre correspondant à Quito, Eric Sanson.
Journaliste depuis 12 ans, Véronica Larrea s'est souvent sentie seule dans les rédactions où elle a travaillé à Quito. Pas seule en termes de solitude, mais seule en tant que femme.
Mariana Santos, la créatrice des Chicas Poderosas, a vécu la même expérience au niveau mondial. Elle est portugaise et a vu qu'il était nécessaire de pousser les femmes. Elle a travaillé au Guardian, par exemple, au moment de Wikileaks, et a vu que sur une rédaction de plus de 100 personnes, il y avait 3 femmes. J'ai vécu cela en Équateur et je crois qu'il est nécessaire de changer cette situation.
Fernanda Burbano, elle aussi, a travaillé dans une rédaction de 50 ou 60 personnes à Quito. Nombre de femmes ? 4, dont elle.
Côté professionnel, je n'avais pas trop d'espoir de promotion, ce qui ne te donne pas toujours envie de continuer. Je voyais des collègues femmes qui travaillaient à la rédaction depuis des années et qui n'arrivaient jamais au poste de rédactrice en chef. Du coup, mes espoirs étaient limités.
Conséquence, Fernanda a un temps abandonné le monde des médias pour se tourner vers la communication d'entreprise. Susana Moran n'est pas allée jusque-là, mais comprend le découragement de certaines de ses collègues.
Dans cette carrière et dans les médias de communication, si les femmes veulent accéder à un poste de direction, elles doivent suivre un parcours beaucoup plus tortueux, surtout dans une rédaction. Elles doivent surmonter des préjugés, des idées reçues, des intimidations ou du harcèlement.
Amie, depuis qu'elle s'était croisée dans le petit monde des médias équatoriens, c'est au cours d'un café entre filles que Véronica, Susana et Fernanda ont décidé de former les filles puissantes version équatorienne.
L'idée est née de ce besoin d'espace pour parler de la place des femmes dans le journalisme et former à la technologie non seulement les femmes, mais en général tous les jeunes journalistes pour les aider à mieux raconter leur histoire. Car c'est ce que nous voulons, avoir de grands rêves et raconter des histoires.
Depuis leur lancement officiel en septembre dernier, les Chicas Poderosas équatoriennes ont fait des émules. Leur communauté est de quelques 400 personnes sur Facebook, ce dont se félicite Maria Dolores Mignot, avocate et professeure de l'Université des Amériques.
J'en parlais avec mes étudiants l'autre jour, il y a différents niveaux d'égalité. Nous avons sans doute conquis un premier niveau, au sens où il n'est plus discuté que les femmes puissent occuper leur place dans l'espace public et qu'elles travaillent et participent à la vie politique. Une fois cette lutte gagnée, il faut passer au niveau suivant, que les femmes vivent une égalité réelle dans ces espaces.
Égalité des salaires, adaptation des rythmes de travail, la liste des combats à mener est longue, à commencer par la mentalité dans les médias. Véronica Larrea.
Dans les classes de journalisme, on a toujours plus d'étudiants de femmes que d'hommes. Mais à la télé, par exemple, les présentatrices sont des ex-reines de beauté, des mannequins. On ne choisit pas les femmes pour les capacités, mais pour leur physique.
Et curieusement, ou peut-être pas d'ailleurs, ce sont souvent les femmes qu'il faut commencer à convaincre. Maria Dolores Mignot.
C'est un peu cliché, mais c'est vrai que beaucoup de femmes ne se sentent pas suffisamment qualifiées. Ça m'est arrivé personnellement et Beaucoup de mes collègues souffrent aussi de ce syndrome de l'imposteur. Je crois qu'il faut se jeter à l'eau et changer l'esprit dans lequel on nous a éduqués.
Conférences, ateliers de formation, les projets ne manquent pas pour les filles puissantes. En Équateur comme ailleurs, Susana Moran.
Chicas Poderosas International va lancer en 2018 au Brésil une structure qui va accompagner la création de médias dirigés par des femmes. En Équateur et dans d'autres pays, nous lançons des projets de journalisme d'investigation, de journalisme spécialisé en études de genre, en passant par le journalisme politique. La place des femmes est sans limite. Les voix des femmes sont importantes. Elles permettent de diversifier les points de vue, apportent de nouvelles manières de voir notre monde, nos réalités et nos problèmes.
En Amérique latine, l'initiative des Chicas Poderosas est déjà une réalité dans une quinzaine de pays. Eric Sanson, Quito, RFI.
La première est le journal de la mi-journée. C'est avec Edwige Saint-Thomas. Bonjour Edwige.
Bonjour Céline, bonjour à tous.
La Martinique a rendu hommage hier à Clarissa Jean-Philippe, policière municipale, victime du terrorisme.
Oui, un hommage à Sainte-Marie, la commune natale de la policière de Montrouge, tuée le 8 janvier 2015 par le terroriste Hamedi Coulibaly. Une cérémonie sur la place qui porte désormais son nom en présence du maire Bruno Nestor Azero. Il rappelle l'importance de cet hommage au micro de Martinique la Première.
Rappelez que cette jeune fille est partie pour la vie, trouver la vie. Elle était en passe d'être titularisée dans son métier de policier, ce qu'elle avait choisi, c'est-à-dire se donner pour les autres, servir les autres, servir la nation. Et malheureusement, ne voilà-t-il pas qu'elle est partie sous les balles de ce terroriste. Donc je crois que je lui dois beaucoup, la ville de Sainte-Marie lui doit beaucoup, la nation française lui doit beaucoup.
J'ajoute qu'une autre cérémonie d'hommage est prévue dans un peu moins d'une heure dans l'Hexagone. Une plaque sera inaugurée à Malakoff, à l'endroit exact où la policière a été abattue. Et alors que la France rend hommage aux victimes du terrorisme, la vigilance reste de mise pour éviter que de tels actes ne se reproduisent. Le plan Vigipirate est toujours d'actualité. Dans les Outre-mer, les forces armées sont également préparées à toute éventualité. C'est le cas en Guadeloupe pour l'heure. Le département n'a pas été pris pour cible, mais il n'est pas à l'abri d'un acte isolé. Olivier Lancien, Guadeloupe la Première.
Des exercices grandeur nature pour appréhender les difficultés et se mettre en condition. La Guadeloupe s'est préparée comme le reste du territoire national. Éric Maire, le préfet de région.
Nous disposons aujourd'hui, y compris en Guadeloupe, de personnel spécialisé qui dispose d'un armement spécifique et de protection spécifique.
Des gilets pare-balles plus efficaces, de nouvelles armes à haute vélocité. Toutes les forces opérationnelles d'intervention ont été pourvues. Isabelle Tomatis, la directrice départementale de la sécurité publique.
Vous avez les polices secours, la police municipale qui sont les premiers intervenants normaux. Ensuite, on monte en puissance par le biais des brigades anticriminalité, de la compagnie départementale d'intervention qui ont été formées au deuxième niveau d'intervention, c'est-à-dire en capacité de riposter. Et enfin, le troisième niveau d'intervention, c'est le groupe d'intervention de la police nationale, comme il existe aussi pour la gendarmerie. On teste ces trois niveaux.
Selon nos informations, les tactiques ont aussi évolué. Compte tenu des objectifs et de la détermination des terroristes présumés, désormais, les longues négociations sont proscrites.
Olivier Lancien, Guadeloupe, la première. En bref, une importante coulée de boue s'est déversée dans la nuit dans la commune du Prêcheur en Martinique. Une cellule de crise a été mise en place, une centaine de personnes a été évacuées. Elles ont pu ensuite regagner leur domicile. Et puis on respire mieux en Guyane. Depuis hier soir, la préfecture a annoncé la fin du dépassement d'alerte. Cet épisode de pollution aura duré 4 jours, en cause les brumes de sable en provenance du Sahara. Un nouvel épisode est annoncé ce week-end. Excellente journée.
Merci Edwige Saint-Thomas et bonne journée à vous. Le journal d'Haïti et des Amériques s'est terminé pour aujourd'hui. C'était Jonathan Brédy à la réalisation. Nous, on se retrouve demain pour une nouvelle édition. Et en attendant, il y a le site internet pour retrouver les informations développées dans cette édition. Il y a également la page Facebook. À passer une excellente journée à l'écoute de la Radio du Monde.
Appel sur l'actualité, prenez la parole. avec Juan Gomez.
Vous souhaitez mieux comprendre et décrypter l'actualité? RFI vous donne la parole. Tous les jours à 8h10 TU, la rédaction répond à vos questions. Rejoignez-nous dès maintenant au 33 9 693 693 70 par courrier électronique, appel au pluriel, .actu@rfi.fr et sur les réseaux sociaux.
Toutes vos questions et réactions sur l'actualité du lundi au vendredi à 8h10 TU sur RFI. RFI, la sélection du mois.
Elle maquille sa voix, met du rouge à lèvres.
Chouf.
Dans mes yeux de l'effroi, monte, monte la fièvre.
Tout va bien, petit, tout va bien.
Orelsan.
Tout va bien, tout va bien.